complètement le... Disons que le périurbain, bon, c'est une catégorie statistique dont je disais qu'on pouvait la discuter, elle agrège donc 15 000 communes en 99. Je pense qu'on doit être à 20 000 aujourd'hui, donc c'est sur 36 000. Ça fait beaucoup de communes qui sont périurbaines, avec des configurations extrêmement diverses. Il faut voir qu'une ville comme Meaux, dont le maire est bien connu, Jean-François Copé, est une commune périurbaine au sens de l'INSEE. Donc c'est aussi une ville, mais elle est dans l'aire urbaine de Paris. Pas avec les critères qui sont ceux de la séparation physique et ceux de la dépendance fonctionnelle mesurée à partir de 40% d'actifs les travailleurs de la commune et dans l'aire urbaine. Une ville comme ça est périurbaine. Donc on a une énorme diversité de ce qu'est le périurbain. En plus, donc ça c'est un premier point, en plus, on a effectivement des situations très différentes. Là, vous regardez Roanne, la couronne périurbaine de Roanne, ce n'est pas la couronne périurbaine de Lyon. Et puis celle de Villefranche, qui auparavant, l'aire urbaine de Villefranche était d'ailleurs autonome de celle de Lyon, maintenant elle est intégrée, c'est sûr, dans l'aire urbaine de Lyon. Mais d'ailleurs, l'intégration de l'aire urbaine de Villefranche dans Lyon a totalement changé les dynamiques. C'est-à-dire que quand on s'intéresse aux grandes villes, aux grandes métropoles, métropoles régionales, on va dire, celles qui structurent les espaces régionaux, les choses sont très différentes de ce qui se passe dans les petites villes. Alors j'avoue que je connais surtout ce qui se passe dans les grandes villes. Et encore un certain nombre d'entre elles, c'est pas la première fois que je parle de ce dont je parle là. En général, quand je présente mes travaux, les gens s'y retrouvent à peu près dans la plupart des grandes villes. Mais dans les petites villes, c'est assez différent, et surtout en plus dans des zones en difficulté économique, où là, forcément, puisque c'est là ce dont je parle, c'est aussi lorsqu'il y a un marché immobilier très dynamique avec une forte demande. Mais pour répondre à la question de ce dont j'ai parlé, qui sont donc plutôt des grandes métropoles et régionales, les dynamiques dont je parle, 90-99, 99-2008, quoi qu'on ait pu rêver faire, avec la maîtrise de l'étalement urbain, hein, on a mis en place un certain nombre d'outils pour maîtriser l'étalement urbain, on n'est pas arrivé, ça a continué fortement. Et les dernières études de l'INSEE qui existent sont assez claires là-dessus. Maintenant, les chiffres sur le phénomène périurbain au sens de l'INSEE, on n'en aura qu'en 2009-2010. Il est même possible d'ailleurs que l'INSEE modifie la catégorie, parce qu'avec 20 000 communes, ça commence à poser problème.
Et j'ajouterais que l'analyse des données Citadel, donc l'exploitation des permis de construire, ne fait que confirmer cette tendance, en fait. On le voit bien, je vous montrerai quelques cartes sur l'Aquitaine tout à l'heure, c'est très frappant.
Oui, mais moi je peux vous montrer des cartes sur la Champagne-Ardenne, c'est pas du tout frappant.
Ah oui, non, mais,
oui, non, mais ça dépend, de la dynamique régionale, en fait. Et de la dynamique régionale, c'est que, après, il y a des disparités territoriales, l'urbanisation, c'est l'arrivée de richesses.
Sauf pour ce qui est de Reims, ce qui confirme ce que vous dites.
Une autre remarque, question, Lalo. Tiens. Celui-là marche.
Je disais déjà, je suis content de voir que le débat s'anime, donc c'est bien, j'aime bien les gens qui ont la vigueur et la conviction. L'exposé a montré qu'il y avait une forme de malthusianisme qui était liée à un égoïsme des gens qui sont dans leur petit village et qui refusent la densité. Et une des solutions avancées semblait être d'avoir d'élargir les organes de décision de façon à peut-être capter plus l'intérêt collectif. Si on déplace le débat et qu'on passe d'une densité zéro, c'est-à-dire d'un champ qui n'est pas construit et qui pourrait l'être, à une ville qui est déjà construite, qui a déjà une densité, si on prend l'exemple de Paris par exemple, il y a des problèmes de densité aussi à Paris, il y a des fonciers qui pourraient être plus denses. Quand on regarde dans le PLU les secteurs de projet de la ville de Paris, la densité est inférieure à 1. Donc je ne suis pas convaincu que la réflexion sur l'urbanisme confiée à des élus et une échelle plus grande aboutit forcément à un non-égoïsme. La Pure avait fait une étude sur le Paris d'Amélie Poulain qui était un peu excessive, mais qui montrait exactement les mêmes principes, c'est-à-dire le type qui est là et qui ferme la porte derrière lui. Donc vous pensez vraiment que cette espèce d'élévation à un échelon autre de décision va permettre de combattre cet égoïsme ?
Alors, j'ai parlé beaucoup, essentiellement du périurbain, avec une petite incursion dans la grande banlieue au moment de la densification autour des gares. J'ai pas parlé des centres, mais effectivement, quand on parle, quand vous évoquez le refus de l'urbanisation, on pense souvent syndrome NIMBY et le NIMBYsme. Et quand on pense syndrome NIMBYsme, on associe ça aux gens qui habitent des pavillons, en général. Mais il existe tout à fait dans les centres. Les gens se mobilisent très fortement pour préserver. Donc, si en face de chez eux, il y a une petite maison et qu'on leur annonce un projet immobilier avec un immeuble de 5 étages, ils vont expliquer que cette petite maison, c'est pas possible. Enfin, c'est un élément d'identité du quartier. Enfin, et puis, ça marche très bien en plus dans l'imaginaire collectif. Il y a la chanson de Dutronc. De grâce, monsieur le promoteur. Il y a le petit occupant de sa maison face au vilain promoteur, etc. Donc tout ça existe effectivement dans les centres. Simplement, malgré tout, il me semble qu'un maire d'une commune de 100 000 habitants, lorsqu'il a en face de lui les habitants d'un pâté de maison ou d'un morceau de rue qui représente 200, 300 personnes, ou même si la mobilisation est très forte, on va arriver à 500, il peut se dire, je vais passer outre, si vraiment il tient au projet. Alors, des fois, le maire, il ne tient pas spécialement à ce que le promoteur construise un immeuble de 5 étages. Mais si c'est un projet important pour lui, etc., il peut passer outre. Mais un maire d'une commune de 1000 habitants, lorsqu'il a les deux tiers de son corps électoral qui lui dit qu'il ne veut pas du projet, voilà. Là, la messe est dite. Donc, il y a quand même une différence, me semble-t-il. Maintenant, parler d'égoïsme... ces gens ont juste un comportement normal. Moi, je serais à leur place, je ferais pareil. Je ne vois pas pourquoi je me sacrifierais pour qu'on me construise une déchetterie devant ma maison. Ils ont un comportement normal. Simplement, la structure institutionnelle, c'est juste comprendre la logique des choses.
Il me semble qu'on parle beaucoup de modèle de ville. C'est-à-dire que... la question que ça pose, c'est quel schéma d'urbanisation on a dans la tête. On est dans sur le vieux continent européen. D'ailleurs, même ce qui est frappant, c'est que même en Angleterre, ce schéma concentrique finalement se reproduit, qui est cette ville bourgeoise du Moyen-Âge finalement. Et on n'en est jamais sorti. Et d'ailleurs, si Astérix remonte si loin, c'est aussi que, enfin, dans l'imaginaire historique, c'est qu'on est, aussi sur des schémas mentaux. Qui disent la ville c'est mal. Et d'ailleurs il y a quelques travaux qui ont pu être faits comme par Jean-Louis Cohen par exemple qui montrent ça, cette ville monstrueuse, des textes du 19e siècle qui décrivent la ville absolument affreuse qui va nous envahir, d'ailleurs la ville polluante, on a le côté donc la question est aussi une culture de l'espace qui est en train de bouger, puisque le modèle dans la tête des gens est en train de bouger. La question, c'est comment faire évoluer la culture de l'espace. Alors, ça passe aussi autour de la culture de la question de la densité. On a quand même une ignorance importante de ce que peut être un tissu dense, mais tout à fait vivable, et qui réponde à ce schéma du gated communities dans le cas extrême, c'est-à-dire un noyau, une communauté de 200 familles autour d'un espace vert, on va dire de façon très, très rapide. Ça existe, simplement, c'est peut-être pas assez porté par les élus.
Oui, Anne-Lé, je suis délégué de Saône-et-Loire, donc j'ai d'expérience agricole et dans un département plutôt rural. On a tous, au niveau des DDA et des DDE, réuni un groupe de travail à la demande du ministre sur l'urbanisme, agriculture, territoire. On n'avait pas attendu cette demande pour réfléchir au sujet. Moi, ce que je constate quand même dans un milieu plutôt rural, et en prenant l'exemple du Beaujolais, hein, le Beaujolais qui connaît des difficultés, le secteur viticole connaît des difficultés importantes, donc on assiste à une déprise, et donc du coup, on a tous la crainte de voir l'urbanisation se développer de façon non maîtrisée, en lien d'ailleurs avec le développement éventuel de Lyon vers le nord qui a déjà commencé. Moi, je voyais deux aspects à cette question-là. Un, c'est vrai qu'on le dit, on le redit, si, je parle du point de vue des terres agricoles, si les revenus tirés de l'agriculture ne sont pas suffisants, évidemment, comme vous le disiez, les agriculteurs, si je reste sur les terres agricoles, vont être tentés, même pas sans attendre la retraite, de valoriser et de faire pression au niveau du conseil municipal quand ils ne sont pas maires, pour que leurs terres agricoles soient valorisées, très vite en terrain à construire. Donc ça, c'est un premier aspect. Et effectivement, on a toujours sur la demande de dire, bah, tout le monde a de bonnes raisons de faire ce qu'il fait. Ils cherchent à optimiser. Et c'est comme ça. On ne peut pas avoir de jugement de valeur là-dessus. Donc ça, c'est un premier aspect. C'est toute la question des revenus tirés de l'agriculture. On voit bien, là, c'est d'actualité, que y a un grand nombre d'exploitations dans ces zones-là qui ont besoin des aides pour tirer parti de leur activité professionnelle. Il y a un deuxième aspect, on en discutait avec mon voisin tout à l'heure, et c'est vrai que est-ce qu'on a pensé certainement à aussi taxer les plus-values foncières avec un retour à la collectivité, parce que c'est vrai que dès l'instant, c'est peut-être insoluble, mais dès l'instant, on n'a pas résolu ce problème, bah, l'attractivité est telle qu'on ne se pose pas de questions. Hein, donc, et si finalement la plus-value faite, il y a deux solutions, soit il n'y a pas de plus-value, mais ça c'est difficile d'intervenir à ce point-là sur le marché, soit à ce moment-là, la plus-value, elle est répartie au sein de la collectivité. Mais on voit bien quand même aussi, moi pour vivre dans une commune rurale, la difficulté qu'on a déjà abordé ce sujet. Je vis dans une commune de 140 habitants, quand on parle de PLU, c'est quand même compliqué. Quand on parle de PLU intercommunal, c'est encore plus compliqué, parce que derrière, il va falloir partager l'espace et à la limite aussi partager les taxes de tous. Voilà.
Oui, non, sur les deux points que vous évoquez, le problème de l'agriculture, qui souffre en plus du développement périurbain, qui pose un certain nombre de problèmes, avec des gens qui voient ça comme un espace de loisir, donc ils vont se promener n'importe où, enfin bon. Et cela dit, on voit de plus en plus, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, alliance département périurbain, urbain, agglo-région, d'un côté donc département périurbain rural et de l'autre côté urbain, les agglos et la région. Les périurbains et les ruraux, les agriculteurs en tout cas, ont beaucoup de choses pour s'entendre. En tout cas, les périurbains aiment beaucoup les agriculteurs tant qu'ils ne leur demandent pas, tant qu'il n'y en a pas un qui vient qui dit voilà, là je voudrais faire est-ce qu'on pourrait faire un lotissement là. Mais autrement, ils les aiment beaucoup et ils sont prêts à pas mal de choses pour les défendre, pour maintenir leur activité et pour les défendre. Donc ça, c'est un point assez important parce que, du point de vue des périurbains, la présence d'agriculture autour de leur territoire, du moment qu'elle n'est pas nuisante aussi, hein, ce ne sont pas des élevages de porcs ou ce genre de choses, mais si c'est de la viticulture, du maraîchage ou de la céréale, on a une volonté d'aider et de... Donc il y a des alliances possibles. Hein, parce qu'on pense aussi beaucoup à agriculture, périurbanisation en termes de conflits. Mais on voit de plus en plus des alliances. D'ailleurs, les périurbains ont compris tout l'intérêt qu'ils pouvaient tirer des SAFER pour maîtriser aussi le développement et un certain nombre de... pour contrôler l'évolution du foncier, etc. Concernant la taxation des plus-values, Vincent Renard n'est pas là, je pense qu'il en parlerait beaucoup mieux que moi. C'est un sujet très important, essentiel, en fait. C'est la question... c'est une des questions clés, racines, de tout le problème de l'urbanisation en France. Voilà, il se trouve que on a quand même des outils de récupération des plus-values en termes d'aménagement urbain. Quand on a fait les villes nouvelles, on a maîtrisé la spéculation foncière avec tout un tas de dispositifs. Donc on a des dispositifs, mais il se trouve que là, actuellement, celui qui bénéficie le plus de l'avancée de la nappe urbaine, c'est le propriétaire agricole, mais pas tous. Celui qui a la chance d'être parmi les premiers dont on va classer les terres agricoles en constructibles. Parce que c'est très inégal, cette affaire. Ceux qui avaient les terrains qui étaient là, bah, ils ont bénéficié de l'urbanisation. Ceux qui sont là, ils n'en bénéficient pas. Voilà, c'est comme ça. Et les évolutions juridiques récentes, parce qu'on a tout un tas d'arrangements sur voilà, je te classe un bout de terrain en urbanisable, mais tu vas me donner ça pour qu'il y ait une manière de récupérer de la plus-value, pour que je fasse un gymnase, etc. Les tribunaux ont tendance à.
En fait, il y a effectivement les outils financiers qui ont été instaurés par la loi aménagement, le PAE, on pourra l'évoquer rapidement tout à l'heure, ils marchent bien quand ils sont bien maîtrisés. Bien souvent, il y a une méconnaissance de ce type d'outils. Concernant la taxation des plus-values, alors la loi ENL en 2005 a essayé de l'instaurer. Ça a été très haut porté par un sénateur qui est le sénateur Repentin, qui a tout fait pour que cette disposition soit inscrite dans la loi. il m'a dit un jour qu'il s'était fait menacer personnellement chez lui parce qu'il défendait cette disposition. Ça touche à des choses qui sont jugées comme intolérables. Ça touche, alors, dans un des ouvrages qu'on vous a mis dans la bibliographie, qui est celui de Natacha Avin, qui a fait un peu le tour de la question foncière, même sur le plan mondial, elle montre quand même que les dispositifs de taxation de plus-value à proprement parler, ils ne marchent pas très bien. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas c'est quoi la mauvaise rente. C'est, quelle est la valeur qu'il faut prendre au propriétaire qui va gagner, qui fait de son bord d'un droit qu'il n'a même pas, pour lequel il sait même pas, il n'a rien fait. Quoi. C'est quelque chose qui tombe du ciel. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on va lui prendre comme valeur ? Et rien que le niveau de la taxe, ben, on ne sait pas le déterminer, et les expériences de plafonds légaux de densité, enfin, et c'est vraiment une expérience même mondiale qui montre qu'on a du mal à appliquer ce genre de choses. Ce qu'on sait mieux faire, c'est instaurer du partenariat pour faire en sorte que ceux qui vont produire la valeur, c'est-à-dire les opérateurs, acceptent de partager le gâteau, ou alors impliquer le propriétaire dans les dispositifs d'urbanisation, en Espagne par exemple, ou en Suisse, ça se fait très couramment, voire même en Suisse, c'est l'initiative des propriétaires qui génère l'urbanisation et qui est négociée. Et là, le propriétaire apporte son terrain dans un pot commun, il en retire une plus-value et la perspective du gain fait qu'il accepte de partager le gâteau avec ceux qui vont réaliser l'opération, par exemple.
Un des problèmes propres à la commune en voie de périurbanisation, ou tout juste périurbaine, c'est que ces procédures existent, mais qu'elles n'ont pas les moyens techniques, elles sont trop petites pour mettre en place les dispositifs. Ce qui fonctionne chez elles, c'est cet arrangement à l'amiable, je te classe ton terrain, ce que j'évoquais tout à l'heure, sauf qu'il n'est pas légal.
Oui, vous avez évoqué très rapidement la question de la banlieue, mais sous un axe très spécifique de la densification autour des gares, etc. Est-ce que dans la relation, l'impact avec sur le périurbain, est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu étudier un peu plus sur, finalement, est-ce que selon qu'on est sur une banlieue qui ne bouge pas, ou à contrario, une petite centralité qui monte, qui se développe dans la banlieue, est-ce qu'il y a des impacts sur le périurbain à proximité, notamment par rapport à la vision que vous avez finalement d'un périurbain qui va continuer à se figer là, dans les années à venir, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui pourraient jouer et évoluer différemment selon l'évolution de la banlieue elle-même à proximité. Je dis ça, voilà, c'est une question plus largement sur, certes, le périurbain est un objet en tant que tel, mais finalement, quelle relation aussi avec le reste de la ville et quels impacts de cette relation ?
Alors, sur le périurbain qui va se figer, parce que, une précision, j'ai dit, les premières couronnes périurbaines vont rester périurbaines. Elles vont évoluer un petit peu. Les noyaux villageois vont se densifier, notamment pour ce problème de peuplement des écoles. Mais globalement, elles vont rester périurbaines, les premières couronnes périurbaines. Par contre, le périurbain lui-même, en tant que phénomène, c'est une catégorie statistique, donc il y a. Mais bon, en tout cas, il va s'étendre. Donc c'est pas figé le périurbain, c'est-à-dire on a une dynamique d'extension, de plus en plus de communes répondent aux critères de périurbanité, selon l'INSEE. Maintenant, sur la question du rôle de la banlieue, oui, c'est une très vaste question, la ville est un système, et tout ça fonctionne avec des itinéraires résidentiels. Et les gens qui viennent dans le périurbain sont très massivement, en fait, le parcours typique, ça va être des gens qui vont être étudiants. Les étudiants habitent dans les villes moyennes, ils vont habiter beaucoup au centre. Dans les grandes villes, à Paris par exemple, ils ont beaucoup de mal à habiter dans le centre, c'est beaucoup trop cher pour eux. On voit des étudiants s'installer en banlieue, ils se mettent en ménage, ils s'installent dans une commune de banlieue. Il y en a ceux qui ont fait des études brillantes, qui ont des beaux salaires, vont s'installer dans des belles banlieues, et puis les autres vont s'installer dans des banlieues moins recherchées, surtout en Ile-de-France, où le marché immobilier est extrêmement contraint, et les valeurs immobilières sont très élevées, et puis ils vont avoir des enfants, alors tant qu'ils sont tout petits, tout va bien, et puis quand il va falloir les amener à l'école, eh bien, ils regardent qui va à l'école et ils vont dans le périurbain. Donc voilà le lien avec la banlieue. Un des problèmes, effectivement, et quand vous interrogez les parents, ils disent « pour nous, c'était très bien, on était très contents de là où on habitait, on adorait notre logement, etc. » Mais pour nos enfants, ce n'était pas possible. Et après, le périurbain, là, il y a un facteur répulsif de la banlieue, et puis ensuite un facteur attractif du périurbain, avec finalement, c'est pas si mal, on va avoir une grande maison, un grand jardin, etc., etc., tout un tas d'attraits. Mais un des enjeux aujourd'hui, et par rapport aux questions que vous posiez à l'instant, sur où densifier, etc., c'est de retenir un certain nombre de ménages dans les couronnes de banlieue. Donc dans la zone continue, en gros à Paris ce serait dans la première couronne, dans les départements de première couronne, donc 92, 93, 94, parce que beaucoup partent en grande couronne. Voilà, donc ça c'est une manière très très générale de répondre à votre question, mais effectivement ce qui est certain c'est que la ville est un système et que le périurbain, son extension en tout cas, reste massivement lié à la recherche par des ménages avec enfants d'un logement familial. Avec un environnement familial. Voilà, c'est ça. Et ces gens-là, ils arrivent pour beaucoup. Un certain nombre d'ailleurs ont été éduqués dans le périurbain, ils ont fait leurs études ailleurs, et puis ils reviennent, mais souvent ils n'ont pas les moyens d'aller habiter là où leurs parents habitaient, ils vont plus loin. Mais je ne sais pas si ça répond à votre question.
Vous posez la question des solutions qui marchent. Le problème de ce qui marcherait, c'est que ça ne marche que si c'est massif. C'est-à-dire si la réponse politique est à l'échelle du phénomène social. Et pour l'instant, la réponse politique n'est que très parcellisée, très divisée, et donc on n'a que des micro-expériences qui marchent dans un périmètre très restreint, mais Rennes qui, la Bleue de Rennes qui est très très volontaire en politique foncière, en fait, vous avez vu, ça la dépasse, puisque ça dépasse ses propres limites politiques.
Oui, vous nous avez donné un exemple donc à l'étranger, en Angleterre. Est-ce que dans d'autres pays européens, il n'existe pas des solutions, je pense à la Hollande, sur les questions de densification et de maîtrise des densifications, ou peut-être à l'Allemagne. Moi, j'ai pas de connaissances, mais peut-être est-ce qu'il existe des solutions,
ou en tout cas il existe surtout des situations très différentes. En Hollande, par exemple, vous avez justement une maîtrise du foncier, une récupération par la collectivité des plus-values, c'est-à-dire la collectivité considère que la plus-value, elle est à elle, elle n'est pas au propriétaire privé qui est resté assis sur son terrain et qui n'est en rien responsable de l'extension des villes. Il n'est peut-être pas resté assis sur son terrain, mais en tout cas, il n'est pas responsable de l'extension des villes à côté. Et donc, ben voilà, ça change tout à partir de là. Donc après, comparer les solutions que mettent en œuvre les Pays-Bas, étudier les solutions que mettent en œuvre ou les mesures que prennent les Pays-Bas, on pourrait faire pareil en France, bah oui, mais il va falloir que le sénateur repentant ne soit pas tout seul. Qu'il y ait d'autres gens à côté de lui, qu'on l'entende, et pour l'instant, il n'est pas audible, son discours. Parler à des gens qui sont propriétaires d'un grand terrain, conceptuellement, ça leur échappe complètement. Des fois, des discussions, c'est l'idée que la plus-value, elle ne leur appartient pas, c'est pas possible. Pourtant, on est dans un pays où les gens payent assez volontiers un impôt, etc. Mais là, on a une culture de la copropriété, enfin bon, mais non. Donc, voilà, l'Allemagne, elle a aussi une culture de la planification régionale qui n'est pas celle de la France. On a aussi quand même des dynamiques de croissance qui ne sont pas les mêmes. C'est un pays vieillissant, on n'a pas les en plus avec une croissance démographique, enfin ce qui va avec, qui est beaucoup plus faible qu'en France. Et donc le côté, le ménage avec enfant qui vient acheter sa maison, etc., c'est moins fort. Donc ça explique un certain nombre de choses. Et puis il y a un élément très important pour comparer la France et le nord, enfin en tout cas les Pays-Bas, c'est qu'on a une énorme disponibilité foncière. Ce qu'on dit, on mange le foncier, mais on en a encore beaucoup, hein, c'est pas. D'ailleurs, je suis très critique sur le périurbain, mais parce que j'ai parlé, je suis parti avec une entrée particulière, donc je m'y tiens. Il y a un certain nombre de personnes avec des arguments tout à fait acceptables, par exemple Martin Vanier, qui est un ancien maire adjoint d'une commune périurbaine, qui connaît bien le problème, mais ou d'autres comme Michalas, qui vont tenir des discours tout à fait intéressants, qui voient dans l'organisation périurbaine actuelle une forme d'avenir de l'organisation urbaine. Au sens où on arrive à avoir, finalement, ça pose quelques problèmes. Mais les centres-villes, ils ont des problèmes aussi, ils ont des problèmes énormes de congestion, d'embouteillage, d'encombrement, de pollution, etc. Alors c'est pas eux qui font forcément toute la pollution, mais elle se trouve qu'elle est concentrée dans les centres. Et donc tout le monde a ses problèmes, le périurbain en pose un certain nombre, mais peut-être qu'on peut trouver des solutions, en tout cas on pourrait travailler à ces solutions. Et finalement, on arrive quand même à une organisation où vous êtes là dans votre petite maison, vous avez quand même un environnement très agricole, là vous avez un petit parc très joli, vous voyez, un petit cours d'eau, des arbres très beaux, etc. Et vous êtes juste à côté de l'aéroport Charles de Gaulle, juste à côté de la Francilienne. C'est quand même une organisation urbaine très intéressante, de mélange de la ville et de la nature. Parce que ces gens-là, ils ne rejettent pas complètement la ville. Ils sont là parce que, justement, ils veulent être dans la ville, là où il y a des emplois, il y a des équipements, là où il y a des infrastructures. Mais donc, ça, c'est à prendre en considération quand même. C'est que ce modèle-là... j'aurais peut-être dû insister là-dessus, parce que finalement, c'est prendre le contre-pied aussi du discours dominant sur le périurbain, c'est horrible, c'est affreux, il faut éliminer ça. J'ai juste voulu démontrer, de toute façon, qu'on le veuille ou non, je suis parti par là, allons-y plus doucement, je suis parti par là, de toute façon, qu'on le veuille ou non, il va être comme ça, il va rester. Ou alors, il faudrait tout changer, et effectivement, que la culture de la petite propriété française, qui nous est issue, qui est très très ancienne, qui a été renforcée par toutes les mesures prises par la Révolution, mais c'était déjà présent avant. Il faudrait qu'on change tout ça. Ça pas pour tout de suite. Je ne sais pas si ce sera pour nos enfants. Mais en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Donc, pour l'instant, c'est comme ça que ça va être. Et c'est avec ça qu'il va falloir travailler, en tout cas, qu'on le veuille ou non, et qu'on l'apprécie ou pas.
Jérôme Grange, agence d'Urba de Grenoble. Sur les questions de fiscalité, on a évoqué plutôt ce qui serait la captation par le public lorsqu'il y a cession. Moi, je crois beaucoup, dans une logique particulière, au système danois, qui est celui de la fiscalisation une fois qu'un terrain est classé constructible, et d'une fiscalisation lourde, où la fiscalité est en adéquation avec la valeur potentielle du terrain. Ce qui suppose à ce moment-là une planification et un système d'opérateurs derrière qui seront en conséquence, mais qui a l'avantage au moins d'entraîner le propriétaire à se libérer de son bien foncier parce que la fiscalité devient trop lourde pour son portage par rapport à l'espérance de croissance de la plus-value. C'était plutôt dans votre présentation, qui était un peu à la hache, mais qui est nécessaire dans un contexte comme celui-là, il y avait le danger de penser que... alors, à titre personnel, moi je refuse de penser que tout les 20 000 ou les 15 000 communes, c'est du périurbain. Même celle dont Martin Vanier, vous citiez Rives, qui doit faire 4 ou 5 000 habitants, pour moi, ça n'est pas du périurbain. Une commune qui a une offre de service, on ne peut pas s'asseoir que sur la définition d'aire urbaine pour classifier. Et c'est un grand danger, parce qu'au moment où on élabore des SCOT, ça amène des erreurs d'appréciation phénoménales. Le risque que je voyais dans une approche qui sera un peu mécaniste dans votre présentation, c'était de penser que la croissance du phénomène de périurbanisation dans un rural plus lointain serait liée essentiellement au malthusianisme de la première couronne. Il faut bien avoir à l'esprit que ce qui ouvre le foncier et ce qui fait sa valeur, c'est l'accessibilité, essentiellement routière. Et que donc les premiers responsables jusqu'à la décentralisation, c'était l'État. Donc la périurbanisation de 75 à 85, et qu'aujourd'hui sont les conseils généraux. Et que quand on le regarde sur la région urbaine grenobloise, la grande dynamique de croissance périurbaine, elle a été vers le sud. D'abord, entre 90 et 99, avec l'ouverture d'un tronçon de la 51, et cet ancien était dans la plaine de la Bièvre autour de l'aéroport de Grenoble-Saint-Jouard, suite à la voie express réalisée par le Conseil général dans la plaine de Bièvre. Et que donc, dans les questions de politique publique qu'évoquait Caroline sur la réponse politique doit être à l'échelle du phénomène social, cette question sur les infrastructures, qui n'est pas que le bien fondé de leur réalisation ou non, mais qui est de se dire qu'un des puissants moyens à regarder, c'est celui de leur gestion. Hein, je ne vais pas revenir sur les travaux qu'on conduit sur les questions de chrono-aménagement, mais, cher à mon cœur, mais les, Il est vrai que les travaux avec les sociologues ont montré que toute l'ambiguïté aujourd'hui dans le choix des ménages, c'est que la construction mentale qu'ils se font du territoire se fait à partir des heures creuses, pour l'essentiel, et qu'ils construisent leur carte du territoire en fonction de cela. Donc voilà, il y a un phénomène, on est encore dans des investissements routiers qui restent importants, qui deviennent très contraints dans les espaces urbanisés et qui se font justement dans cet espace lointain qui permet de montrer que les travaux de Zahavi sur l'heure que l'on consacre en moyenne à se déplacer sont toujours... Et puis l'autre point, qui était peut-être un petit peu absent de votre présentation, c'est l'outil productif que l'on a dans un pays. Et c'est vrai qu'en 30 à 35 ans, c'est tout le secteur du pavillon, dans la diversité, qui s'est beaucoup développé. Et où il n'y a pas de lien, récemment, lors d'un déplacement en Espagne, j'ai découvert qu'on faisait du périurbain dense, c'est-à-dire l'Espagne qui a la culture des opérateurs promoteurs faisant de l'individuel groupé, ils font du périurbain dense. Mais c'est bien des zones d'habitat dans lesquelles il n'y a aucun service public, aucun service marchand qui est lié. Nous, on produit du périurbain en maison individuelle parce que c'est un secteur qui est très puissant. Mais dès lors, ça pose la question aussi de l'aménagement. C'est-à-dire que dans toutes les... Aujourd'hui, ce qui est frappant dans la décennie actuelle, plus ou moins contrasté suivant les régions, parce qu'il y a des vraies différences historiques et cultures, c'est l'importance du diffus. Finalement, la faiblesse des lotissements, que les urbanistes regardaient ça comme le pire des mâles, aujourd'hui on se rend compte qu'il y a encore pire, c'est le détachement parcellaire, qui dans la région urbaine grenobloise représente 60% des constructions de maisons individuelles. Donc il y a toute cette question du métier d'aménageur que l'on a un peu perdu, qu'il soit parapublic ou privé, dont on sent en grande partie aujourd'hui l'absence, me semble-t-il.
Oui, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Sur le premier point, effectivement, je l'ai dit, hein, le périurbain, c'est extrêmement divers, c'est une catégorie statistique qui inclut, donc je disais, Meaux, c'est 50 000 habitants. Et c'est pour ça que j'ai insisté, justement, dans ma typologie, quand même, j'ai inclus centre-bourg, 10 000 habitants, vous voyez, il y a une vraie centralité, les équipements, des services, et ça, c'est du périurbain, en tout cas au sens de l'INSEE, mais c'est sûr que vivre là... c'est pas la même chose que vivre dans la commune d'à côté qui a 1000 habitants. Quoique cette commune-là, de 10 000 habitants, elle a son centre et puis elle a tout autour les mêmes lotissements pavillonnaires que les communes autour. Donc, sur les raisons de l'étalement urbain ou de la dispersion urbaine, effectivement, l'existence d'infrastructures routières encourage la construction de nouvelles infrastructures et le développement de l'accessibilité de nouveaux territoires. Favorise et accompagne le mouvement. Mais il n'en est pas la cause. C'est un élément du tout, mais il n'en est pas la cause unique. Il y a d'autres facteurs. Alors, concernant le malthusianisme foncier, dans le cas de l'Ouest lyonnais, par exemple, les gens qui vont s'installer sur Saint-Martin-en-Haut, les infrastructures routières pour y aller, elles sont très mauvaises. C'est en train d'être amélioré, mais disons que l'extension, elle est partie avant, sans les infrastructures routières. Les gens, ils y vont aussi, parce que de toute façon, s'ils veulent être de ce côté-là de l'agglomération, ils n'ont pas tellement le choix à un certain prix. Mais, après, les infrastructures routières, elles ont aussi tendance à accompagner le phénomène, comme les emplois d'ailleurs, qui viennent accompagner le phénomène. Et finalement, des nouvelles centralités se constituent dans le périurbain, ou se redynamisent, se renforcent, et elles servent de relais à une extension supplémentaire des aires urbaines. Lorsque Villefranche, par exemple, est en train d'être pris dans l'aire urbaine de Lyon, il va servir de relais à l'extension de cette aire urbaine. Surtout en plus avec un artefact statistique lié au calcul de l'aire urbaine. Donc ça, c'est un élément important, malgré tout ce malthusianisme. Et l'autre élément important aussi, c'est l'offre de logements familiaux accessibles dans un environnement qui, pour la demande, convient, qui est jugé familial, qui est apte à une vie familiale, qui est tout à fait insuffisante dans les centres. Et dans les agglomérations. Prenez un budget de vous voulez acheter, si vous prenez un budget de 200 000 euros à Paris, vous avez un studio de 20 mètres carrés, j'ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps, donc j'ai mis chiffre en tête, vous avez 20 mètres carrés dans le 7e arrondissement, vous avez 75 mètres carrés à Saint-Denis, et vous avez une maison sur 700 mètres carrés de terrain vers Provins, très loin au cinéma. Voilà. Donc quand vous voyez ça, l'état du marché immobilier et l'état de l'offre, eh ben, vous avez compris déjà beaucoup de choses. Et concernant ce... ils vont choisir 75 mètres carrés à Saint-Denis au début, ensuite ils vont envoyer leurs enfants à l'école, et puis ils vont aller plus loin dans le périurbain.
Et après les agorailles, parce qu'ils sont vraiment trop loin de la ville.
Effectivement. Alors les ados, ils peuvent trouver ce genre de communes, justement, qui sont intéressantes, qui sont des communes centres, avec des zones pavillonnaires sur le pourtour, et accessibles à pied, ou en tout cas pas loin à pied, ou à vélo, sans emprunter les départementales, parce qu'à vélo, les départementales, c'est entre les villages périurbains, c'est pas terrible, mais qui vont pouvoir trouver un certain nombre de services et d'équipements. C'est-à-dire le périurbain, et plus seulement en raison de l'existence de ce centre, de ce type de centre. Si vous prenez l'ouest lyonnais, toujours une ville comme Mornant, où il y a pas mal de pavillons, il y a quand même un certain nombre d'équipements et de services. Et pourtant, c'est quoi Mornant? Ça doit être aujourd'hui 6 000 habitants, peut-être quelque chose comme ça, 5 000. Voilà, donc là, il y a un certain nombre de réponses qui sont apportées.